Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne, Sophie Peters.
Antenne à une heure un peu plus tardive que d'habitude. L'essentiel, c'est d'être ensemble, c'est tout. Ensemble pour partager vos histoires de vie, vos questionnements et souvent vos déceptions. Comme peut-être celle de ce soir, d'avoir vu votre émission décalée ou de voir votre équipe favorite perdre le match ou le gagner. Mais ça, c'est pas une déception, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'une déception si ce n'est la frustration de ne pas vivre quelque chose à la hauteur de ce que nous imaginons? Il y aura toujours des déceptions. Les aborter avec lucidité, voilà qui nous libère de bien des colères. En mesurer la gravité, tout autant. Dans de rares circonstances, elle est si grave que vous choisirez la rupture. Puis, vous vous consacrerez à la guérison, mais tentez toutefois d'assumer les déceptions moins sérieuses. Être tolérant représente un accomplissement spirituel sublime. Qu'est-ce que ça implique? Vous n'apprécierez peut-être pas un certain aspect chez une personne, mais vous êtes capable de l'accepter et de ne pas perdre une relation qui mérite d'être préservée. Souvent, comme nous tous, les gens font simplement de leur mieux et ne méritent pas qu'on les laisse tomber ou qu'on leur ferme notre cœur. Sans une réserve de patience, l'amour peut rapidement se transformer en haine. Alors nous sommes patients ce soir, nous ouvrons nos cœurs et nous nous écoutons. Florian et Thomas répondent à vos appels au 3921 avec une infinie patience. Et c'est Fifi qui réalise avec grande bienveillance cette belle émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot « nuit » ou partagez avec nous en envoyant un mail à libreantenne@europe1.fr ou la page Facebook Sophie Peters 3921. Nous attendons vos appels.
22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1.
Bonsoir Véronique.
Bonsoir Sophie.
Bienvenue.
Merci beaucoup de prendre mon appel.
Je vous en prie. Alors, c'est un petit peu particulier parce que Thomas, alors je le dis, m'a mis dans une forme de confidence. Vous allez me parler de votre relation de couple, un homme avec lequel vous êtes depuis 4 ans, mais vous l'avez prévenu que vous appeliez la libre antenne ce soir en l'invitant, je vais le dire comme ça, à écouter aussi. Donc vous êtes deux. Après j'ai dit à Thomas en souriant, on fait une thérapie de couple ce soir dans la libre antenne, c'est pas banal, mais je suis ravie. C'est ça ?
C'est ça.
C'est ça.
Alors, je ne l'ai pas prévenu, en fait. J'en ai discuté avec lui, donc je vous laisse un accord.
D'accord.
Et puis, je lui ai envoyé en copie le mail que je vous ai adressé pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe chez nous.
Voilà. Alors, en deux mots, d'ailleurs, je peux le résumer. C'est tous les 5-6 mois, nous nous retrouvons dans une situation de conflit. Je suis avec un homme depuis 4 ans. Nous prenons de la distance pendant quelques semaines et nous nous retrouvons comme au premier jour. Cette situation est épuisante et nous empêche d'avancer. Voilà. Et vous cherchez à comprendre ce qui est à l'œuvre entre vous.
Tout à fait, c'est ça.
D'accord. Mais merci pour l'initiative, parce que je trouve ça intéressant et bon, on verra si après on a des nouvelles, mais je trouve que la proposition de demander à son partenaire, son conjoint, de dire on écoute ensemble et on essaye de démêler, je trouve intéressant. Donc vous êtes le porte-parole ce soir du couple aussi, pas seulement Véronique, c'est ça, c'est ce que je comprends en tout cas.
Oui, tout à fait, tout à fait.
D'accord.
Oui, tout à fait, d'accord. Alors, juste pour résumer, nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans, au mois de mars.
Oui.
Nous avons tous les deux des caractères très forts. On a eu une vie, bien évidemment, auparavant. Moi, j'ai 57 ans, lui, il vient d'avoir 50 ans. Et avec tout ce qui s'est passé dans notre vie, dans tous les cas, personne lâche quoi que ce soit. On est très exigeants l'un et l'autre. Et puis, on a l'impression que personne lâche, alors que en 4 ans, et à chaque fois qu'il y a eu une interruption, on est convaincu qu'on a quand même avancer sur,
d'accord,
sur
plein ça, c'est de important. Choses. Ouais.
Oui, 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 tout à fait.
Ouais.
Et voilà, tous les. Alors, je pense qu'on est tellement dans le l'attention, le respect de l'un et de l'autre que. Dans tous les cas, moi, je le ressens comme ça. J'ai l'impression qu'on s'empêche d'être soi à 100%. Toujours faire très attention à ce qu'on peut dire, comment on le dit, ce qu'on fait. Voilà. Et je pense que ça, en tous les cas, moi, je pense que ça m'étouffe un peu. Mmh. Voilà, et les sentiments réels sont bien présents, sont bien présents parce qu'il y a eu une altercation assez forte. Alors quand je dis forte, c'est pas violent, ni dans les mots, ni dans les gestes, ni dans quoi que ce soit, parce qu'on parle beaucoup, 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 vraiment beaucoup. Et là, j'ai dit, moi, je peux plus parce que ça m'épuise, et puis on est dans une spirale où ça se reproduit régulièrement.
D'accord. Est-ce que la spirale est due dans ce que vous expliquez, ce que je comprends quand vous dites on s'empêche d'être 60%, on fait attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça nous étouffe. Est-ce que du coup, comme ça met une telle pression sur vos comportements respectifs, un peu un système de cocotte-minute en parallèle, à un moment donné, tout explose ?
C'est ça.
D'accord. Comment l'enjeu, ça veut donc dire comment vous pourriez tous les deux être plus chacun vous-même tout en étant ensemble ?
Eh bien, c'est bien ça, notre question.
Ah, c'est bien l'enjeu, hein, d'accord.
Tout à
alors,
fait,
vous, de votre côté, si on regarde juste Véronique, hein, on verra après si vous pouvez nous parler de lui. Qu'est-ce qui, selon vous, vous empêche d'être vraiment vous dans cette relation? Ou peut-être est-ce de manière générale, ou peut-être est-ce un historique des relations précédentes? Qu'est-ce que vous avez identifié? C'est quoi être soi? Et qu'est-ce qui fait que bah, vous vous sentez différente et que vous mettez une telle pression quand vous êtes avec lui ou peut-être de façon plus large quand vous êtes en couple?
Alors, moi, je n'étais pas comme ça avant. Avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est très attentif, qui est très, très à cheval sur les mots, sur les phrases. Il faut que le bon mot soit mis à la bonne place, dans la bonne phrase, tout le temps, tout le temps. Il est très à cheval comme ça. Et ça, au début, ça m'a fait un peu bizarre. Et puis, après, j'ai réussi quand même à faire aussi comme ça. Mais j'y arrive pas tout le temps parce que c'est pas ma façon de faire à moi, alors que c'est naturel chez lui. Et donc, il y a des moments, bah, je sais pas faire, quoi.
Là, vous êtes en train de dire en fait qu'il y a, et c'est peut-être réciproque, on va voir si vous le faites aussi envers lui, il y a ce que vous ressentez en tout cas, un manque d'autorisation à être vraiment vous. C'est-à-dire, s'il vous reprend à chaque fois que la phrase n'est pas correcte selon son point de vue à lui, ça signifie que d'une manière générale, il n'est pas à l'aise parce qu'il ne vous donne pas une autorisation d'être différente.
C'est ça.
D'accord.
Pour lui. Ouais. Mais pour lui, c'est pas pour me
reprendre. Oui, pour lui, c'est quoi? Oui, oui. Et pour lui, ça veut dire quoi?
Pour lui, c'est sa façon de parler. Pour lui, c'est normal.
Bah oui, c'est sa façon, naturel. Mais c'est pas la vôtre. Mais c'est intéressant. Ça veut dire, bah, je t'aime, je suis avec toi, et donc je te voudrais semblable à moi pour t'aimer totalement et complètement. Si tu es différente de moi, alors j'ai un problème pour t'aimer. Donc, s'il te plaît, sois comme moi, comme ça, je pourrais vraiment t'aimer. Mais ça marche pas.
Alors. Au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute là-dessus.
Oui, mais c'est narcissique, cette histoire d'être envoyé à soi-même. C'est comment je peux... Il vous aime, ok, vous n'avez aucun doute. Et il est déboussolé ou un peu déstabilisé par le fait d'aimer quelqu'un qui est vraiment pas comme ce qu'il aime être lui. Lui, il fait attention. Je reprends juste cet exemple-là, hein.
Oui.
Pour lui, voilà, chaque mois sa place, chaque façon de dire, c'est important. C'est même peut-être pour lui un respect de l'autre, un respect de lui. Et peut-être qu'il met beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dedans qui l'empêchent d'être tranquille dans ses sentiments envers vous. Parce que c'est comment ça se fait que j'aime une personne qui fait pas ça ou qui est pas ceci, alors que c'est tellement important pour moi.
C'est ça. Moi, il m'a toujours dit, j'aurais aimé avoir en face de moi mon jumeau. Il est du signe du Gémeaux.
D'accord. Et du Gémeaux, voilà. Mais pas du jumeau. Oui.
Voilà. Il aurait aimé avoir son double.
Ouais.
C'est que moi, je ne suis pas du tout son double.
Ouais.
Mais en même temps, il est avec moi.
Ben voilà.
Et voilà, la grande difficulté.
Vous cherchez aussi, votre exigence est la même, et celle du double, du jumeau ?
Non.
C'est laquelle, la vôtre ? Vous, quand vous lui faites des scènes ou des crises ou quand ça ne va pas, c'est sur quoi ?
Ben, c'est sur, sur des choses qui... moi, j'ai deux enfants... Et j'ai quatre petits-enfants. La famille, pour moi, est très, très importante. Lui, il n'a pas d'enfants, malheureusement. Donc, pas de petits-enfants, bien sûr. La famille, sa relation familiale est moins importante que la mienne. Donc, ça a été assez long et assez difficile à se mettre en place de son côté. Et ça, ça m'a beaucoup attristée. Et puis, il est très exigeant, je dirais, vis-à-vis des enfants ou des petits-enfants. Mais en aucun cas, m'empêche de voir mes enfants ou mes petits-enfants. Au contraire, hein, il me dit, t'as pas vu tes enfants depuis 15 jours, 3 semaines, il faut absolument que tu y ailles parce que...
Mais très exigeant, ça veut dire quoi, alors ?
Ça veut dire que, pareil, il faut être super vigilant à ce que le bon mot soit à la bonne place, parce qu'autrement, pour lui, ça peut prendre une tournure importante.
Mais il a peur de quoi ? De ne pas être compris ? Que vous ne compreniez pas ? C'est quoi cette histoire de mots ?
Je pense. Ouais, je pense. Je pense qu'il il a peur de ne pas être compris.
D'accord. Et vous, alors ? Parce que finalement, vous ne me dites pas vraiment vous quand vous dites que ça va jusqu'à la crise et à la rupture. Vous, quels sont vos... On va dire vos griefs ou qu'est-ce qui est difficile pour vous ? Sa réaction déjà ?
Voilà, ouais. Tout à fait. Ouais. Moi, à mes yeux, je trouve qu'il y a un manque de tolérance.
D'accord.
Mais pour lui, c'est naturel. Il me dit en aucun cas, je ne dois me laisser marcher sur les pieds par qui que ce soit et quand ça ne va pas. Je le dis et c'est comme ça. Et si quelqu'un ne lui correspond pas, eh ben, il ne le voit pas.
Il ne le voit pas, d'accord.
Non, voilà. Alors qu'il ne lui correspond pas dans les idées, dans la façon de faire, dans... Peu importe, hein. C'est très réducteur.
Ouais, en fait, il a besoin d'être en accord pour se sentir rassuré. Dès qu'il y a un risque de désaccord... y compris dans le sens des mots, dans le comportement, dans les valeurs, ça touche une forme de vulnérabilité chez lui. Il n'est pas en sécurité.
C'est ça.
C'est une menace.
C'est ça.
D'accord. Mais vous, en fait, c'est plutôt ça qui vous pose problème, parce que c'est dans ce rapport-là. Oui.
Parce que forcément, ça entrave la vie au quotidien, la vie avec les amis, la vie avec la famille, la vie... parce que quand on va quelque part, moi, j'ai toujours une oreille ou un œil, pas pour le surveiller, mais pour les échanges qu'il peut y avoir autour de lui... Parce que je me dis que s'il y a quelque chose qui est dit qui ne va pas, ça va vite partir en vrille, quoi. Donc, je suis jamais sereine.
Donc, vous êtes garante de la sécurité du couple et de sa sécurité. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je regarde, parce que vous savez, quand j'écoute chacun, je prends des notes, ça m'aide. Hein. Donc comme ça, je peux tracer un peu une histoire. Et vous avez démarré votre témoignage en disant « on » tout le temps. On s'empêche d'être soi, on fait attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, cela nous étouffe. En fait, si je reprends vos mots et je mets « je m'empêche d'être moi, je fais attention à ce que je dis ». À ce que je fais, cela m'étouffe. C'est juste là.
Tout à fait. Et ça a été, la conversation de ce week-end qui était très,
d'accord,
très, très mouvementé et en même temps à chaque fois très enrichissant dans notre conversation. Et là, vraiment, j'ai dit, je ne peux plus être dans cette spirale où tous les 4-5 mois, ça explose et puis il revient et je rouvre toujours la porte. Parce que les sentiments l'un pour l'autre sont vraiment là. Mais là, j'ai dit, même en t'aimant, je peux arrêter et te quitter parce que moi, je ne peux plus.
Je comprends. Alors, on fait une toute petite pause, Véronique, et vous nous racontez après l'échange que vous avez eu ce week-end, qui a d'ailleurs motivé votre appel, pour savoir aussi qu'est-ce qui se passe des deux côtés dans ce que vous vous êtes dit ce week-end. À tout de suite. Alors Véronique, vous nous disiez que ce week-end, donc, vous aviez eu une conversation difficile mais enrichissante. Qu'est-ce que vous avez compris ? Parce que vous dites quand même que depuis 4 ans, vous avez avancé. Donc qu'est-ce qui a avancé par rapport au sujet ?
Alors, ce qui a avancé, je pense qu'il a fait quand même des efforts pour être un peu plus dans relation dans la famille, en tous les cas de mon côté. Mmh. Il y a des choses qui ont avancé.
D'accord.
Mais en même temps, il y a un grain de sable important. Le grain de sable important, il est que lors d'un moment où on était en conflit, séparés, il a rencontré quelqu'un. Mmh. Les sentiments étant là, il est revenu vers moi et moi, j'ai ouvert la porte. Et il est toujours en contact avec cette personne, en relation amicale. En tous les cas, je lui fais confiance. Et à chaque fois que nous avons donc un conflit, il se retourne vers cette personne. Mais, a priori, pas toujours dans une relation amicale. Donc, parfois dans une relation physique. Et il y a 15 jours, on s'est vraiment clashé, si je peux prendre ce terme. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'aller dans sa grotte pour réfléchir, tout ça. Et je sentais quelque chose, j'ai un fort ressenti. Mmh. Et il a vu cette personne. Raconte ce problème, puisque c'est son ami, et je dis que moi, ça ne pouvait pas durer. Et je me dis qu'il fallait faire un choix. Mmh. Et là où ça a justement clashé très fort ce week-end, me dit, mais je ne peux pas choisir. J'ai des choses avec toi, et l'amour, etc. Et puis avec cette personne, il y a d'autres choses sur lesquelles elle me comprend, elle m'entend, etc. Alors, même si, quand on est en bon terme, il n'y a pas de relation physique, je dirais, je ne peux pas accepter ça. Enfin, je ne sais plus là. Là, je suis vraiment sur, ouais. Sur la
Vous ne pouvez pas l'accepter, mais vous l'acceptez, ouais.
Oui, parce que quand il me dit, quand on n'est pas dans une période de clash, il la voit, pas systématiquement. Je veux dire, il l'a rencontré en 2015, il a eu une soirée, je dirais une nuit avec cette personne l'année dernière au mois de novembre, où effectivement on était dans un passage houleux, voilà, où on se dit stop et puis se dit terminé. Donc, à sa décharge, je dirais, étant donné que en cette période-là, il n'était plus avec moi. Évidemment, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mmh. Sauf que maintenant, donc il faut être en accord avec soi-même, sauf que maintenant, elle prend trop de place dans cette relation. Il lui raconte beaucoup de choses, de ce qui se passe entre nous, quand ça va pas, etc. Et cette personne, en fait, elle attend qu'une seule chose, c'est qu'il revienne vers elle. Donc, ma confiance, moi, eh ben, elle diminue.
Forcément. Forcément.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux faire avec ça? Je lui dis, tu es en train de me perdre. Moi, je ne veux pas de ça. Il m'a dit, je sais que de toute façon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je te perde. Je n'y crois pas.
À vous, vous dites ça. C'est pas possible que
non,
je te
lui,
perde.
Non, c'est lui qui me dit ça.
D'accord. Mais alors, justement, en vous écoutant, Véronique, ce qui me vient, c'est quelle est l'intention que vous avez eue, enfin, le sentiment que j'ai, hein, c'est un peu une histoire de bouteille à la mer, mais je voudrais quand même vous entendre sur le fait que vous lui ayez proposé d'écouter l'émission ce soir, que vous ayez donc besoin qu'on en parle toutes les deux, et qu'il écoute. Quel est le message que vous avez envie de lui faire passer ce soir qu'il n'entend pas par mon intermédiaire? Parce que c'est vraiment ça, votre appel.
Ah, alors, le message, je ne sais pas, j'aimerais peut-être plus...
Qu'est-ce que vous voudriez qu'il entende, qu'il n'arrive pas à entendre? C'est souvent ça, les thérapies de couple. Hein,
ben, qu'une relation à trois, même si elle n'est pas physique avec elle. D'accord. Quand il est avec moi, la relation qu'il a avec elle en étant... en lui apportant toutes les informations sur un plateau, et finalement, elle, je ne la connais pas, hein, et je ne préfère pas, elle a tout sur un plateau, et elle peut manœuvrer comme elle le souhaite, puisqu'elle lui dit, de toute façon, moi, je t'attends. Et lui, il lui dit, ne m'attends pas, j'aime Véronique jusqu'au bout, et je ne viendrai pas. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a un clash entre nous, il y va.
Oui, c'est en fait, il est avec vous, comme vous savez, l'épouse et la maîtresse. C'est que je ne quitterai jamais ma femme, mais j'ai une maîtresse. Comme ça, au moins, je sécurise. Il y a une histoire de sécurité, mais on sent qu'il est insécure. On sent en fait que toutes les demandes sur les mots, le vocabulaire, les enfants, tout ce que vous racontez vise une histoire de sécurité. Donc à chaque fois qu'il y a de l'insécurité, il essaye de se créer de la sécurité. Donc pour lui, c'est stabilisant, c'est logique. Lui, il est dans sa logique, il est dans sa logique de sécurité. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça doit vous aller. Hein. Je vous dis ça pour que ça vous aille, pour que vous puissiez comprendre dans quelle logique manifestement il est, enfin dans ce qu'on comprend. Maintenant à vous de savoir. Comme vous dites, bah, qu'est-ce que je fais de ça? Bah, ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. C'est-à-dire jusqu'où vous allez pour accepter d'être comme ça, la régulière, mais en fait avec quelqu'un d'autre au cas où.
Voilà, c'est quelqu'un d'autre au cas où.
Au cas où, oui, c'est le cas où.
Et c'est pas systématique.
Non, c'est au cas où. C'est au cas où.
Entre 2015
donc tout ça est une histoire de sécurité.
On s'est caché d'autres fois, il n'est pas retourné.
Mais la question qui se pose dans votre couple, c'est comment lui et vous, comment chacun a la capacité de donner de la sécurité à l'autre. Parce que là, vous êtes en train de créer une relation. Lui s'est senti en insécurité, il vous fait vivre de l'insécurité. C'est ça le deal inconscient dans votre couple. Je suis en insécurité avec toi, je te mets en insécurité avec moi, et vous vous dites, ben, moi je suis en insécurité avec toi, et si je continue, je vais te mettre en insécurité. Moi, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette de c'est l'insécurité.
Ça.
Voilà.
Oui.
Si vous avez envie de construire, maintenant c'est toute la question, et d'avoir envie d'un langage de vérité, d'authenticité, d'engagement, c'est-à-dire être vraiment dans ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement, c'est hyper intime, hein, que ce soit d'ailleurs au travail ou en couple, c'est quelque chose du plus profond de l'être. Si je m'engage, sur quoi et comment? Vous dites, vous parlez beaucoup, bah, il va falloir se parler vrai et se parler quelle est la sécurité que je peux trouver auprès de toi, quels seront les signes qui feront que je me sens en sécurité et réciproquement, et que chacun puisse dire à l'autre, voilà ce dont j'ai besoin. Et chacun s'engage à nourrir en fait ce besoin réciproque. Mais c'est un besoin réciproque, ça peut être à ce moment-là un cercle vertueux. Si vous vous engagez dans cette spirale-là ensemble, puisque vous avez manifestement le même besoin en miroir, à ce moment-là, vous pouvez engager quelque chose de constructif. Aujourd'hui, la spirale, elle est négative parce qu'elle se conjugue sous la forme de l'insécurité. Je te fais vivre ou je te fais subir ce que moi, tu me fais subir et ce que je subis. Sans doute partie... Peut-être, je dis, peut-être un peu de lui, dans le sens où il y avait un déséquilibre au départ, vous aviez une famille, il y a beaucoup de structures, on sent chez vous. Donc, quelque chose qui l'a menacé.
Oui,
voilà. Il a pu, je dis, il a pu, hein, je parle vraiment au conditionnel, à un moment donné, sentir ça psychiquement comme une menace et avoir besoin de créer un équilibre. pour lui se retrouver en équilibre. Donc, il cherche quelque chose autour de ça. Peut-être, je dis peut-être. Hein. Maintenant, il n'est pas là, il nous entend. Est-ce qu'il est d'accord avec ça ou pas? J'en sais rien. C'est des hypothèses. Ce qui est certain dans ce que vous racontez, c'est qu'il y a ce thème, comme un petit fil rouge, là, entre vous, d'insécurité. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller regarder, de près. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Oui, oui, ça fait écho, bien sûr. Mais moi, j'ai plus les éléments. Je sais pas comment faire. Moi.
Ah bah, c'est normal que vous sachiez pas comment faire de son côté à lui, parce que évidemment, hein, on est deux et vous n'avez pas ni à maîtriser sa partie ni à répondre pour lui. Maintenant, en revanche, ce qui va vous aider, c'est vous. De pouvoir distinguer à l'intérieur de vous quels sont pour vous les ingrédients, les éléments de la sécurité dans le couple, dans l'amour. Alors, je vous propose là, on fait une petite pause pour les informations et puis on D'accord. se retrouve dans quelques instants pour voir ensemble et pour avancer, pour vous nous disiez.
Très bien.
D'accord ? Donc je vous dis à tout de suite.
Europe 1. 22h30, 1h, la libre antenne, Sophie Peters.
Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit en direct avec vous, une libre antenne dans laquelle on vous accueille pour trouver des réponses, pour vous confier bien sûr, pour essayer de démêler des fils de vos vies, des plots, de conflits, de colère, d'incompréhension parfois. Thomas et Florian accueillent vos appels au 3921, c'est Fifi qui est aux manettes. Vous pouvez réagir par SMS 739-21 précédé du mot nuit, écrit en majuscule. Nous contacter via la page Facebook Sophie Peters ou par mail libreantennetoutattaché@europe1.fr. 3921, nous sommes à votre écoute.
22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1.
Rebonsoir Véronique.
Bonsoir.
Alors,
bonsoir.
Peut-être certains éléments vous sont venus par rapport à notre échange et de votre couple. On parlait d'insécurité de part et d'autre. Et ma question était de savoir, vous, quels seraient vos éléments de sécurité? Dans quoi vous vous sentiriez bien?
Moi, je me sens bien. Je voudrais... quelqu'un, je voudrais qu'il soit, pas quelqu'un d'autre, lui, j'aimerais qu'il soit plus détendu, moins à cheval sur plein de choses, du lâcher prise, voilà quoi, la vie tranquille, joyeuse, heureuse, bien, enfin, je sais plus comment le dire.
Oui, qu'il puisse être heureux de vous avoir dans sa vie. Et voilà. J'ai envie de dire que c'est ça le plus important. Voilà, d'être dans ce bonheur-là et de pouvoir compter sur vous.
C'est ça. Mais il sait qu'il peut compter sur moi. Moi, je sais que je peux compter sur lui. Mais il y a toujours des points d'accroche qui font que... moi, je défends ma position aussi, lui aussi.
Mais quelle position il défend? Dit-on défend chacun sa position, mais de quelle position vous parlez?
Sur beaucoup de sujets, qu'est-ce que je peux vous citer comme sujet
Parce que ce que dit... c'est intéressant ce que dit Brigitte, là, par message. Elle dit... Elle a le sentiment que peu à peu vous perdez l'estime de vous-même dans cette relation et qu'en plus cette autre relation qu'il a enfonce un peu plus le clou de ce manque d'esquive, dit Brigitte. Donc attention, Véronique, écrit Brigitte, on sent de la souffrance en vous et lui n'a pas forcément besoin d'être rassuré. S'il en avait besoin, il n'aurait pas une autre relation. Et ça pose la question de l'importance de la relation qu'il a avec Véronique. Parce que vous avez dit, c'est vrai, à un moment donné, qu'il avait besoin d'être rassuré. Bah, pas par vous, en tout cas, il se rassurait quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il ne prend pas le fait d'être rassuré de votre part, il le prend ailleurs.
Eh bien, peut-être. Moi, je ne sais plus. Je sais, franchement, je suis un peu perdue. Hein.
Je ne sais plus comment
analyser la situation. Je ne sais pas.
Ouais, alors, ce que dit Thomas, hein, je vous lis aussi son message. Cette communication a l'air brouillée. Vous entendez, mais vous ne vous écoutez pas l'un l'autre. C'est tout à fait juste. Il me semble important de mettre au point une façon de se comprendre, de comprendre comment vos mots peuvent être interprétés et compris de l'autre. Mais il a raison, Thomas, c'est ça la communication, c'est qu'est-ce que je comprends quand je comprends, et pas juste m'arrêter aux mots. Alors je continue le message de Thomas. En ce qui concerne la troisième personne, je peux comprendre que votre compagnon ait besoin d'avoir une personne de confiance, une confidente, mais le souci semble être la limite, la frontière. Il doit faire en sorte de vous faire comprendre qu'il ne se passera rien. Pourquoi ne pas vous voir tous les trois plus souvent, qu'il y ait un lien de confiance entre vous et cette personne? Donc comme une amie en fait. Non pas qu'il y ait une amitié, mais que cette personne comprenne quelle est sa place et que son rôle est un support vis-à-vis de votre compagnon qui est totalement légitime, mais pas créateur de problèmes. Je pense vraiment que vous avez de merveilleuses bases, juste besoin de les avoir mises à jour pour que tout fonctionne. Oui, mais là, il se sert de cette autre personne comme une maîtresse vis-à-vis de vous. Et donc, il en fait un tiers séparateur. Et moi, il me semble que comme toute relation fusionnelle qui cherche un tiers séparateur, et c'est le cas dans les relations à trois, il est allé chercher une autre personne comme pour séparer quelque chose de vous dans lequel lui-même est trop fusionnel et trop perdu. C'est très inconscient ce qui est en train de se passer entre vous. Là, j'essaye de vous mettre des bases, mais de le raisonner très concrètement. Vous êtes dans une relation fusionnelle, c'est moi, c'est l'autre et l'autre, c'est moi. C'est ça la relation fusionnelle. Et donc, on doit ressentir la même chose. Si on s'aime, c'est qu'on ressent pareil. Si on s'aime, c'est qu'on parle la même langue. S'il y a de l'amour, c'est ça. Ah, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes mots, ah ben alors on s'aime moins, etc., etc. Mais comme la relation fusionnelle, elle est très dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'on se perd dans l'autre quand on est dans une relation fusionnelle. On se perd. Comme on fusionne, ben, c'est simple, hein, c'est physique. Si je fusionne, ben, une part de mon identité n'existe plus. Elle a fusionné avec celle de l'autre. Donc, vous ne vous trouvez plus avec des identités distinctes. Et pour retrouver son identité, qu'est-ce qu'il fait lui? Et ce que vous pourriez faire, mais peut-être vous le faites avec vos enfants ou d'autres, on va chercher une tierce personne, ce qu'on appelle un tiers séparateur, pour justement défusionner et avoir un sentiment d'existence propre. Mais comme vous vous aimez, vous ne pouvez pas vous empêcher, mais vous comprenez que c'est la forme d'amour que vous vous donnez l'un à l'autre, qui est un amour fusionnel, qui en fait, au lieu de vous nourrir, vous détruit l'un l'autre, vous coupe de la ressource que devrait vous donner cet amour.
Tout à fait. Alors, pour rebondir sur le message de Thomas, je ne peux pas rencontrer cette personne, je ne le souhaite pas, parce que cette personne, et c'est ses propos qui me ramènent, puisque moi, je ne les ai jamais rencontrés, je n'en connais que ce qui me ramène. Il me ramène que, de toute façon, elle n'attend que lui, hein, et elle le lui dit, elle lui fait comprendre. Lui, il lui dit de toute façon, moi, je suis engagée avec Véronique et c'est Véronique que j'aime. Mais en même temps, à chaque fois, enfin, quand il la voit et qu'il discute ou quoi, il lui apporte toutes les informations de ce qui se passe chez nous sur un plateau pour elle.
C'est pour ça
il l'alimente en même temps.
Bien sûr. Son
espoir ou je ne sais pas.
Non, mais c'est au-delà. En fait, c'est pas ça qui. Oui, pour vous, c'est ce qu'il fait. Mais psychiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il se sert d'elle en tiers séparateur. Il se sert d'elle pour créer de la distance avec vous. Psychiquement, j'entends. Hein, je ne me place pas sur un... D'accord. On est vraiment sur qu'est-ce qui se passe sur un plan inconscient et psychique. Des relations.
Mais ça sert à quoi? Pourquoi?
Ça sert à se protéger. Parce que sinon, comme il fusionne, il se fond en vous et il se perd. Et il a peur. Parce qu'il n'a plus son identité. Donc, pour retrouver une part de son identité, il a besoin d'une autre relation qui le ramène à lui. Comme s'il était perdu. Mais et réciproquement, parce que vous, comme vous êtes aussi fusionnel avec vous, comme vous dites, je suis perdu. Vous le dites très bien, vous. Alors vous, vous, vous ne recherchez pas de tir séparateur, mais vous constatez que vous êtes perdu et que vous en souffrez et que vous perdez l'estime de vous, c'est que vous perdez vos contours. Donc chacun est en train de perdre son autonomie, psychiquement, hein. C'est-à-dire l'autonomie, c'est qu'est-ce que je pense quand je pense. Hein, quand je parle d'autonomie psychique, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je pense, comment je pense les choses, etc. C'est, je suis perdue parce que tout devient confus. Ça crée de la confusion.
Eh ben, ça crée surtout des conflits parce que moi, je sais ce que je pense et je tiens ce que je pense. Donc, quand on est dans une discussion sur quelque chose où on n'est pas d'accord, comme moi, je ne vais pas lâcher ma façon de penser, et elle m'appartient, et je respecte sa façon de penser à lui, sauf que si la mienne ne rejoint pas la sienne, ça ne va pas. Et ça part dans un conflit.
Oui, donc il vous prive de votre identité. Il vous dit, deviens ma propre identité, sinon je ne m'y retrouve pas, je suis perdue. Et vous dites, voilà. Non, je ne veux pas, parce que moi, si tu fais ça, je n'ai plus mon identité. Et lui vous dit, tu ne veux pas prendre mon identité. Donc, à ce moment-là, je vais chercher quelqu'un d'autre qui peut-être en voudra. Mais lui joue un jeu où il... Vous voyez, ce qu'il vous demande est quelque chose qui lui est en fait néfaste. C'est-à-dire qu'en fait, il a une demande très infantile envers vous. C'est la demande qu'un enfant envers sa maman. La fusion, c'est 0-2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Le père, à un moment donné, est là. Et c'est tant mieux parce qu'il va jouer ce rôle dont je parle de tiers séparateur. Tout d'un coup, le bébé comprend que d'abord il est pas maman. Au début, il pense qu'il est maman, puis après le bébé comprend qu'il y a maman et puis il y a lui. Et puis une fois que le bébé a compris qu'il y a maman et il y a lui, tiens, il y a papa. Ah, et papa, il me sépare de maman. Et on va arriver progressivement à ce qu'on appelle le stade de l'Œdipe. Maman, papa et moi, d'accord.
Et
au triangle donc œdipien.
Et de là.
Oui. Oui, allez-y, pardon.
De là, je rebondis, parce que au début qu'on s'est connus, il m'a dit, moi, de toute façon, je veux la même place que tes enfants et que tes petits-enfants.
Voilà, voilà.
Et je lui ai dit, tu as ta place, mais tu n'auras pas la même place que mes enfants et mes petits-enfants.
Bah oui, mais il veut une maman.
Un jour, lors d'une conversation, je ne sais plus sur quoi c'était, ça devait comporter les enfants et tout, j'ai dit, de toute façon, il ne m'a jamais demandé de choisir, mais je lui ai dit, ne me demande pas de choisir un jour entre mes enfants et toi, parce que ce sera mes enfants. Et ça revient dans les conversations.
Oui. Et en fait, et du coup, il a une autre personne qui va jouer, parce que si vous êtes la maman, d'abord avec la maman, c'est compliqué d'avoir du désir, une vie sexuelle, donc on a besoin d'une maîtresse. C'est ça qui se passe aussi, hein, sur un plan psychique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation sexuelle, mais enfin, ce n'est pas pareil. Et puis, on a peur de se fondre dans maman. Donc, on a besoin d'une autre altérité, d'une autre personne. Et puis, ce qu'ajoute Brigitte, effectivement, c'est juste. Elle dit, moins on sait qui on est, plus on tombe dans l'amour fusionnel. Absolument. Absolument.
Voilà.
Ouais. C'est que moins on a d'identité propre et d'autonomie, plus on rentre dans la fusion. Parce qu'on n'a pas de contour.
Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça?
Ah oui, c'est une vraie question.
Eh bien là, ma question, j'en suis là. Là, aujourd'hui, j'en suis là.
Mais moi, il me semble, quand vous dites qu'est-ce que je fais avec tout ça, il me semble que vous avez beaucoup de compréhension à votre disposition et que vous, la situation vous invite à vous positionner très clairement et à dire qu'est-ce que moi, il me semble juste pour moi, en tant qu'être, en tant qu'individu. Voilà, puisque là, le couple, si vous voulez construire un couple, construire une alliance, c'est trouver un équilibre. Et là, l'équilibre me paraît difficile, en tout cas en ce moment-là, dans ce que vous décrivez.
Oui,
donc,
tout à fait.
Donc, retrouver de l'équilibre, c'est remettre de la polarité de part et d'autre dans chaque plateau de la balance. Donc, vous, de vous reconstituer le plus possible en tant que personne autonome, avec ses pensées propres, avec ce qui lui importe, avec ce qui compte vraiment pour elle. Et de sortir de « je deviens quelqu'un d'autre pour te plaire » ou « je deviens quelqu'un d'autre pour perdurer un couple ». Non,
alors,
vous ne vous perdez plus dans la relation.
Ça, justement, je l'ai. Et c'est justement ça, je crois, qui doit poser un problème, en tous les cas, dans notre relation ou chez lui, parce que je ne rentre pas là-dedans. Moi, je suis quelqu'un, je suis autonome, j'ai mes pensées, j'ai mes idées, je fais comme j'ai envie de
vous
faire.
Vous y rentrez sans y rentrer, vous en souffrez du coup.
Oui, mais moi, j'ai bien.
Oui, mais Véronique, vous seriez pas dans un couple comme ça. Vous seriez même pas rentré dans une histoire comme ça si ça, ça vous parlait pas quelque part. Il y a quelque chose qui s'accroche chez vous d'une histoire fusionnelle. Vous ne seriez pas rentré jamais dans une histoire pareille s'il n'y avait pas une part de vous qui ressemble à ça. Et donc ça va vous permettre de vous connaître. Il y a Séverine qui dit ce type de comportement mène directement à perdre toute spontanéité. Le danger est là aussi pour la relation, bien sûr.
Excusez-moi, vous pouvez répéter sur le
Oui, Séverine dit ce type de comportement mène directement à perdre toute spontanéité. C'est-à-dire que vous comptez les points. Hein, et Séverine ajoute le danger est là aussi pour la relation.
Tout à fait.
Je vous lis tous les messages, c'est vraiment intéressant. Louis-Marie, hein, chacun, c'est son point de vue, mais moi je trouve intéressant à chaque fois d'avoir les points de vue de chacun. Louis-Marie dit, soyons sérieux, cet homme n'aime pas notre auditrice, mais sa projection sur elle, et il veut toute l'accaparer, fuyez cet homme, dit Louis-Marie. Et Michael lui ajoute, la fusion vous prive tous les deux de votre propre identité, ce petit jeu, J-E, et il est indispensable de le garder et de ne pas se laisser tirer vers le bas, restez vous-même. La meilleure protection, moi j'ajoute, hein, par rapport à tous ces messages, vous me demandiez quoi faire, Véronique, c'est d'être vous-même dans ce qui sonne juste pour vous, y compris votre vulnérabilité, y compris le fait que, oui, une part de moi perd son identité au contact de cet homme, une partie de moi a envie de fusionner avec lui, une partie de moi rentre dans son histoire à lui et accepte tout ça, au nom de quoi, j'en sais rien, vous de le découvrir, mais ça va vous renseigner sur vous.
Ouais.
Quelle est la part de vous qui demande à grandir dans cette relation ? Parce D'accord. que là, ça va être intéressant pour vous. Bon, c'est pas comme ça, hein, juste en une fois qu'on va tout démêler. Moi, je vous donne des pistes de réflexion.
Donc, c'est pour ça que quand moi, je lui ai dit, tu vas faire un choix. Parce qu'en fait, il me dit, je suis à la croisée des chemins. Qu'est-ce que, je ne sais pas, est-ce que je suis
Il vous demande de choisir.
Non, c'est moi qui lui ai demandé de choisir.
Ah, d'accord, ok.
C'est moi qui lui ai demandé de choisir. Il m'a dit, je ne peux pas. Donc, c'est pas moi qui choisirai, c'est toi qui choisiras pour moi. Ou elle qui choisira pour moi. Ça, je ne comprends pas.
Ben, ça veut dire que lui n'arrive pas à se définir. Et il demande à l'autre de le définir. Donc, c'est elle qui choisira ou vous qui choisirez.
Mais attendez, quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, qu'on l'aimera jusqu'au bout de sa vie, et que en balance il y a une autre personne en relation amicale, sauf pendant les moments où on est en discorde, bah je sais pas, moi on me demande de choisir, il est tout de suite fait mon choix. Je vais vers la personne à qui je dis je t'aimerai jusqu'au bout de ma vie.
Mais il a peut-être, il y a quand on dit ça quelquefois, il y a ce qu'on souhaiterait, ce qu'on voudrait, et puis il y a ce que réellement on fait. Il y a l'action. Combien de personnes est-on à dire à quelqu'un qu'on l'aime et qu'on l'aimera jusqu'au bout de sa vie et à peiner à mettre en œuvre ce qu'on aimerait tellement réaliser ?
Donc moi, j'en étais au point hier soir à dire stop, de toute façon, je lui ai dit, t'es en train de me perdre, tu vas me perdre et il n'y aura pas de retour cette fois-ci. Il me dit, de toute façon, j'y crois pas.
Alors, c'est intéressant parce que Thomas ajoute, et je trouve très intéressant comme piste, y a-t-il un moyen pour vous deux de trouver un domaine où il n'y a plus de fusion, mais une synergie ? Quelque chose où vous pouvez réussir tous les deux pour vous réapprendre que ce n'est pas que de la fusion ou de la dominance, mais de la coopération. Une activité sportive, une activité extérieure, il faut vraiment faire la balance entre indépendance et codépendance. Très intéressant parce que ça veut dire faire quelque chose ensemble, en étant ensemble, en étant deux êtres séparés et en partageant une activité. C'est ça que propose Thomas. Effectivement, voilà une voie extrêmement intéressante et judicieuse sur le fait d'être en couple et de faire ensemble sans être pareil.
Alors, faire ensemble, c'est pas facile parce que lui, c'est un musicien et c'est sa passion et c'est l'autre partie de sa vie. Voilà, moi je suis pas du tout dans la musique, moi je suis très très cartésienne, très où j'organise, où je prévois, je sécurise, tout ça. Lui n'était pas comme ça, mais il est devenu un peu plus à mon contact. Donc lui, à part la musique, il y a pas de point où
que vous partagez.
Voilà, c'est ça. Et encore, moi, je le partage.
Mais des activités, oui, non?
Non, pas du tout de sport, pas de voyage.
Mais
pas
il est où
de...
le partage?
Et ben voilà.
En 4 ans, qu'est-ce que vous vivez ensemble concrètement?
Ah ben que nous. Il y a pas
nous,
de...
quoi, des discussions, un repas, un restaurant, on discute et on passe la nuit ensemble et on fait l'amour.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il pourrait y avoir le vide autour de moi, et ce serait très bien pour lui.
Ah oui, mais alors, le couple, il n'est pas dans la vie, il n'est pas incarné, votre couple, il est hors sol. Il n'y a pas d'incarnation. Donc, il est encore plus fusionnel. Oui, là, on
va, quand on va, par exemple, chez mes enfants...
Vous n'avez pas de sortie entre amis où le couple existe depuis 4 ans chez des amis, socialement?
Alors, les amis, il y en a
un dîner,
très peu, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dès qu'il y a quelque chose qui ne lui correspond pas, eh ben, il élimine.
Ouais.
Donc, moi, j'ai eu l'impression qu'il...
Attendez, Kurni, ça vous correspond tout ça? C'est vraiment
non.
Vous?
Non.
Ben, la question, c'est... qu'est-ce qui me tient dans cette relation? Vraiment. Vous Vernick,
on va... C'est ma question.
Ouais, là, vraiment, je vous invite à consulter quelqu'un, à en parler avec un psy, parce qu'il faudrait quelques séances, là, pour essayer de dénouer ce fil-là. Qu'est-ce qui, dans mon histoire, dans ma personne, qu'est-ce qui me tient dans cette relation qui est si important pour moi et que je ne vois pas et que je ne connais pas de moi-même? Qu'est-ce que je suis en train de résoudre? Parce que c'est ça qu'on fait dans nos relations. Hein. Qu'est-ce que je suis en train de résoudre de moi dans une relation pareille? Si elle me ressemble si peu de ce que je connais de moi, c'est qu'elle est en train de me révéler, enfin, je parle à votre place, elle est en train de vous révéler un blind spot, un angle aveugle, hein, un endroit sans vision de votre part. Là, ça devient intéressant. Il n'y a que ça d'intéressant. Non, mais franchement.
Oui.
Parce que là, vous allez vous découvrir quelque chose. Mais elle ne vous rend manifestement pas heureuse et elle ne ressemble pas du tout à vous. Elle est à des antipodes de vous. Alors, elle ne ressemble, ressemble pas à ce que vous savez de vous. Mais en tout cas, elle ressemble à une partie inconnue de vous. Et là, ça devient
vraiment
intéressant.
Je suis bien, j'ai un métier de contact, de communication. Je suis bien quand je suis entourée. Professionnellement, mais personnellement également, je suis bien quand je suis entourée d'amis, quand je suis chez eux, quand ils viennent, quand on est dehors, quand je suis avec entourée de mes enfants, entourée de leurs amis. Voilà.
Vous voyez, aller chercher ce côté-là. À quoi?
Et je suis avec tout le monde, et même s'il y a des gens qui ne me correspondent pas complètement, parce que je ne pense pas qu'on puisse correspondre complètement à quelqu'un.
Vous savez, dans l'histoire d'amour...
Ben je suis avec.
Oui, mais dans l'histoire d'amour, de couple, il y a une histoire de relation à la mère. Allez regarder du côté de maman, du côté de papa, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, et qu'est-ce que vous rejouez là? Pour que ce soit de cette façon-là, il y a quelque chose chez vous... De très loin. Non, mais là, on n'a pas le temps de tout creuser ensemble. Je vous donne 2-3 pistes de réflexion. Ouais. On n'aura pas les réponses comme ça. Hein. Donc, voilà, je vous les donne pour que vous cheminiez avec tout ça, Véronique.
D'accord.
Mais il va falloir aller à votre rencontre, là. Et ne cherchez pas à résoudre ce couple qui est... qui peut pas se résoudre comme ça. Vous n'êtes pas toute seule. C'est pas à vous de résoudre quelque chose qui n'est pas... de votre sort. Chacun est 100% responsable de notre relation, mais vous n'êtes pas 100% responsable du couple, d'accord? Donc stop.
Parce que
vous êtes en train de...
Et
vous êtes en train de prendre la responsabilité de la relation. Et il vous la laisse. Et il vous demande de la prendre. Ne la prenez pas, c'est pas la vôtre. D'accord, vous ne prenez que la vôtre. Et la vôtre, ça suffit déjà, c'est déjà pas mal.
Oui.
D'accord. Bon, merci Véronique. Je vous laisse avancer, cheminer, puis on se rappellera si vous voulez. Bon courage à vous.
Un grand merci pour votre écoute.
Merci Véronique. Merci. Venez, au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sophie Peters.
Bonsoir Gladys.
Bonsoir.
Bienvenue.
Du coup, j'étais dans la musique et il faut que je rattérisse un petit peu. Donc, heureuse de vous avoir parce que ça fait longtemps que je vous écoute et votre voix m'apaise. Merci. Me fait penser à la voix de ma cousine d'ailleurs.
Oui,
vous avez une voix qui est très apaisante, qui berce. Et moi, j'appelais pour témoigner un petit peu de mes angoisses et qui sont transformées en anxiété, en burn-out. Camille, ma vie est un petit peu par terre.
Oui.
Alors, tout ça, ça vient de loin, bien évidemment. Je me fais suivre et je me suis déjà fait suivre. Je vais essayer d'être assez concise par déjà mon enfance. Je suis née d'un père qui ne m'a pas reconnue, étranger, mais que j'ai connu jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près. Donc un coup, il était là, un coup, il n'était pas là. Et d'une maman qui a tellement souffert un petit peu de l'autorité de son père, qui, moi, m'a élevée dans la non-autorité totale. J'étais un électron libre, c'est-à-dire que je me sentais déjà responsable de moi-même. Je suis pas petite, je me sentais pas traumatisée par ça. Mais à l'adolescence, j'avais peur de rien. Et donc, un jour, j'ai fumé un joint, j'ai fait un mauvais délire. Ça a été bien parce que du coup, depuis, j'ai jamais retouché. Moi, après, j'ai fait ma première crise d'angoisse. À l'époque, on parlait de spasmophilie. Et puis, les médecins, spasmophilie. Donc, j'ai vécu déjà un passage de peur. Et puis, après, j'ai remonté un peu la pente, après quelques temps. Et puis, j'ai travaillé. J'arrivais à passer au-dessus. Je savais que c'était là. Mais en fait, j'arrivais à faire semblant. On me voit comme une femme assez solaire, donc tout le temps souriante, c'est ce qu'on me disait tout le temps. Et puis, il y a 2 ans à peu près, j'ai fait un malaise. En fait, il y a 8 ans, j'ai fait comme un premier petit burn-out au travail. J'ai fait un malaise, je travaillais à Paris à l'époque, et qui m'a fait éviter de prendre le train, le métro, tout ça. Donc, je me suis arrangée pour travailler dans la ville où j'habitais, donc plus de train, plus de métro. Et puis, j'ai fait un peu comme je pouvais. Mais déjà, il y avait des angoisses et des évitements. Puis, j'ai fait le même malaise il y a 2 ans à peu près, où là, je me suis rendu compte que je faisais de l'hypertension. Donc, alors ça y est, je me suis affolée. Et puis, j'ai fait une année difficile en travaillant, mais en évitant pas. Mais la boule au ventre, pas bien. Vraiment pas bien. Et puis, dans cette année-là, j'ai mon collègue qui est décédé assez violemment d'une crise cardiaque. On l'a retrouvé chez lui. Et c'était un ami. Donc là, ça s'est un peu écroulé parce qu'en plus, c'était vraiment quelqu'un qui faisait rire, qui animait. Et j'y étais très attachée. Donc là, ça a été assez traumatisant pour moi. Donc les angoisses, je pense qu'elles sont un peu montées. Et 3 mois après, je perds mon cousin dans un accident de moto. Et il avait 37 ans. Donc là, j'ai vraiment du mal. Là, j'ai l'impression que je vois que du noir autour de moi. Et en fait, de là, quelques mois après, je n'arrive plus à aller travailler. Voir mon médecin. Et le curseur, c'est quand je maigris beaucoup, c'est que ça ne va pas. Et là, j'avais perdu pratiquement 10 kilos. Donc, j'étais descendue à 48 kilos. Donc, je me suis arrêtée. J'ai eu un médecin traitant qui m'a cru. Parce que c'est ça aussi un peu la difficulté, ce genre de choses. Les angoisses, ça ne se voit pas. Mais dans le corps, c'est intense quand même. Moi, j'ai l'impression que j'ai pris un ticket pour le train fantôme. Sauf que j'ai pris qu'un ticket, mais ça revient. Vous voyez, je n'ai pas demandé à remonter dans le manège et je suis repartie dedans. Donc, j'ai réussi avec mon médecin traitant qui m'a suivi à avoir un licenciement pour inaptitude, à savoir que j'avais un patron, en fait, c'était très ambivalent parce que c'est une claque, un bisou, vous voyez. Il y avait de l'affect, mais en même temps, il pouvait avoir des colères terribles. Donc, dans ma thérapie, j'ai compris ce que je rejouerais parce que j'ai eu un père violent, enfin, mon géniteur était violent. Donc, j'ai rejoué ce que je connaissais de toute façon. En tout cas, avec la jante masculine. Donc, j'ai lu beaucoup du Alice Miller, plein de livres. J'adore lire. J'ai fait de l'hypnose, j'avais déjà fait de l'EMDR, enfin je m'y connais, hein. Je m'y connais beaucoup plus pour les autres que pour moi-même d'ailleurs.
Oui.
Voilà.
À force de lire autant, oui. Mmh.
Oui, et puis d'observer, parce que j'aime observer. Et le truc, c'est que j'y mets beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, même si j'en avais pas. Enfin, je pense que je suis combative. Mmh. Et à un moment, je me dis, mais quand est-ce que ce train va s'arrêter et quand est-ce que... Alors, je reconnais que c'est le mental, hein, c'est mes pensées. Hein, je me suis fait un scénario et puis je le repasse. Mmh. J'aurais bien aimé me faire un scénario d'amour, hein, ou romantique, même si ça se passe pas, au moins on est bien. Mais non, moi c'est un scénario beaucoup plus sombre. Et j'ai du mal parce qu'en même temps, je sais que j'ai quelque chose de, ou je pense avoir quelque chose de solaire en moi. Mais il y a un truc qui bloque. Et d'ailleurs, je cherche souvent ma respiration, comme si j'étouffais, vous voyez, comme si, voilà. Mmh.
Et ça veut dire aussi que, parce que moi, en vous écoutant nous dire tout ça, Gladys, ce qui m'est venu, c'est, me suis dit, mais tout est juste, intelligent, bien amené, etc. Mais très général, quand vous m'avez raconté comme ça ce qui vous est arrivé, or il y a plein d'événements que vous avez cités, notamment là, deux deuils successifs qui ont amené quand même à cet épisode...
En sachant que j'étais pas bien avant, hein,
bien
l'année
sûr,
d'avant.
Hein. Bien voilà, sûr, mais bon, voilà, sur un organisme, on va dire, fragilisé, voilà, deux deuils successifs importants dans votre vie. Et la question que je me pose en vous écoutant, c'est est-ce que vous avez pu donner un sens très intime, très singulier, très précis dans ces événements-là que vous vivez pour dire, voilà, ça c'est moi, ça c'est Gladys. Vous voyez, pas général, pas ce qu'on trouve dans les livres,
alors,
etc.
Là,
mais quelque chose
là,
de...
j'essaye d'être générale, parce que j'essaye d'être un peu concise.
D'accord.
Hein. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps.
D'accord, d'accord. Mais
c'est
clair pour
clair.
Vous. D'accord. Mais ça veut dire que vous savez, au fond de vous, relier, donner du sens à chaque événement. Qu'est-ce que vous vivez dans ces moments-là? Qu'est-ce que ça réveille?
Ah ben, c'est ma mère et mon père, ça c'est sûr. Moi, je dirais, enfin, c'est la violence de mon père. J'ai mis du temps à, voilà, à le réaliser, mais c'était ça. En plus, il est d'origine étrangère, donc ma mère m'a pas laissé exprimer son identité. Même à mes amis, elles ont su l'identité de mon père, j'avais 30 ans. Donc ça veut dire que de petite à 30 ans, j'ai menti.
D'accord.
Déjà. Et ma maman, avec tout le respect que je lui dois, elle a été défaillante. Mmh. Et c'est pas quelqu'un qui reconnaît facilement. Donc moi, petite, quand j'ai su que j'avais pu revoir mon père, d'ailleurs, j'étais très en colère et je cassais tout. Enfin, je pouvais tout casser quand j'étais en colère et ma mère me laissait faire. Mmh. Elle ne me mettait jamais de limite. Donc maintenant, à l'heure actuelle, moi, mes peurs, je me vois, moi, petite fille, et je me fais courser par un loup. Vous voyez, un peu l'image.
Ah oui, d'accord. Donc, elle est où la Gladys adulte dans tout ça aujourd'hui?
Eh bien, justement, je pense que c'est la petite fille qui a pris toute la place,
hein, oui,
avec ses erreurs, et d'ailleurs, j'ai un ancien patron qui me disait de moi que j'étais une femme enfant. J'en ai joué. Il y a un moment, ça a marché, et puis maintenant, ça marche plus parce que mon système s'est écroulé. Il faut que j'en retrouve un nouveau. Mais c'est vrai que
parce
la femme.
Parce qu'il manque un adulte.
Voilà.
Et en fait, vous êtes en train de rejouer ce que je comprends. Hein, vous me dites, c'est ça. Dans votre enfance, vous dites que, en fait, petite, vous vous sentiez déjà responsable de vous-même. Donc, parce que votre mère vous élevait, comme vous l'avez dit, dans la non-autorité. Donc, vous avez dû créer une structure pour vous tenir droite, debout, à l'intérieur de vous. Mais cette structure, elle s'est créée seule sur un terrain qui, vous a pas permis. Vous l'avez construit tout seul avec les moyens du bord, qui sont les moyens d'une enfant et pas avec un adulte. Alors, bien sûr qu'il y a eu, j'imagine, des professeurs ou d'autres personnes adultes autour de vous. Mais en tout cas, voilà, dans la structure de base, vous avez créé quelque chose qui tenait droit, mais qui est inscrit sur une base excessivement fragile et qui, du coup, le temps en venant, c'est pas structuré, mais à l'inverse, c'est refragilisé.
Tout à fait. Mmh. C'est fatigué, en fait,
oui.
À essayer de faire, de dire, allez, ça va aller, t'es forte. Alors, tout le monde me voyait forte de l'extérieur, mais moi, il y avait un décalage avec ce que je ressentais à l'intérieur de moi.
Oui.
Et puis petite, j'avais un regard sur le monde des adultes J'ai découvert il y a peu de temps, hein, en me reconnectant un peu avec ma petite fille, je trouvais que les adultes, ils n'étaient pas sympas, quoi. Ils n'étaient pas gentils, ils étaient... Alors, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère, ma grand-mère maternelle, qui était un amour de femme, d'avoir mon grand-père autoritaire, mais avec moi, qui était différent et qui m'a servi de père, hein, de figure paternelle. Mais sinon, les adultes, non, je les ai pas trouvés sympas.
Et aujourd'hui, et vous, en tant qu'adulte, vis-à-vis de vous-même, vous trouveriez sympa ?
C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai pas compris.
Bah oui, vous dites, moi, j'ai pas trouvé les adultes sympas une fois que j'ai regardé, une fois que j'ai contacté la petite fille. Mais est-ce que vous pourriez jouer le rôle d'adulte sympa envers vous ? Parce que c'est ça dont vous avez besoin.
Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est vrai. Je suis la plus, je pense que avant-hier je disais à une amie, tu sais, les gens ils peuvent me critiquer parce que de toute façon la plus dure qui soit c'est moi. Donc critiques des autres maintenant, ouais c'est vrai. Et c'est vrai, hein, ma psychologue l'a déjà relevé, hein, mais je n'arrive pas à mon patron, parce qu'on s'est vu une dernière fois pour mon licenciement, m'a quand même dit quelque chose qui m'a interpellée. Il m'a dit, tu donnes aux autres ce que tu ne sais pas te donner à toi-même.
Eh oui, mais ça, dans un système comme celui-là, d'abord vous vous videz, c'est comme si vous vidiez de votre propre sang. Imaginez c'est que ça. Vous donniez du sang tout le temps aux autres pour des transfusions, puis après vous n'avez plus rien.
Parce qu'en fait, mon burn-out, là, il s'est fait, parce qu'à un moment, je pouvais, heureusement que j'ai mon petit chien, parce qu'à un moment, moi, j'angoisse dans la rue. Alors, moi, j'aime pas mettre des mots, l'agoraphobie, mais les symptômes, ils ressemblent. Je suis dans la rue, ça y est, plus je m'éloigne de chez moi, et plus j'ai le palpitant. Comme si je rejouais quelque chose perdu dans la forêt. Donc, je vois maintenant un peu, parce que je remonte un petit peu, hein, ce burn-out m'a permis d'être en tête-à-tête avec moi-même. Ces angoisses m'ont permis aussi à un moment de plus avoir du monde autour de moi, parce que moi, je travaillais dans le commerce. Et puis, de m'autoriser à dire, je ne veux plus faire ce métier-là aussi. Je n'en peux plus. Donc, de tout refaire. Mais pour tout refaire, là, à l'heure actuelle, j'ai tout mis par terre.
Ouais.
J'ai tout cassé.
Ouais. Ah, donc là, vous êtes prête à tendre la main et à devenir votre propre adulte, à construire la maison qui vous va. Ça me fait penser à la maison des trois petits cochons. Parce que vous ne m'avez pas parlé du loup tout à l'heure ?
Si. Oui,
je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient, mais je me dis, bon, vous savez, il y a la maison en paille, la maison en bois, je crois, puis la maison en briques. Donc, vous en êtes à
la...
Voilà, hein. Donc, maintenant, l'enjeu, c'est la maison en briques.
Voilà. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas... Parce que la peur d'avoir peur, à un moment, quand on a des angoisses, on ne peut pas se présenter devant un employeur. Enfin, de toute façon, je passerai par une formation parce que je veux faire autre chose. Mais ça, il faut que ça...
Oui, mais regardez, Gladys, vous dites, ben, de toute façon, je passerai par une formation. Donc, ça veut dire que ça, ce sera les premières briques de la maison. Donc, vous pourrez aller... Le loup pourra toujours tourner autour de la maison. Si la maison, elle est en briques, ça tiendra le coup. C'est que jusqu'à présent, la maison, elle n'était pas assez solide. Et j'aime bien l'idée parce que, pour vous, dans ce que je comprends de votre enfance, personne ne vous a aidé, vous a montré comment construire la maison. Donc aujourd'hui, la maison en brique, en fait, c'est à vous de la construire. C'est un peu le cas quand on a des enfances comme ça. Alors bien sûr, on peut expliquer sa vie en disant « ma mère était comme ci, mon père était comme ça, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela ». Mais si on reste trop longtemps là-dedans, dans cette explication-là de son propre monde ou de sa propre vie, on reste un peu victime de ses parents ou de son histoire. Et du coup, on est prisonnier.
Figé.
Voilà, on est prisonnier. Or, à un moment donné, et c'est le travail que vous faites sur vous, c'est il y a un point de bascule qui fait que, ça y est, je connais mon histoire et j'ai... Enfin, il y a un sentiment très important, c'est de pouvoir prendre pitié de soi. C'est-à-dire d'avoir... prendre pitié, hein, c'est très spirituel. Hein, prendre pitié, c'est je peux avoir une immense empathie pour cette petite fille que j'ai été, qui a manqué de ci, de ça, qui a eu tel père, telle mère et tout. Et aujourd'hui, je ressens une telle empathie pour elle, une telle tristesse, une telle affection finalement, que je suis prête à lui tendre la main et à l'aider. Et ensemble, on va aller construire justement la maison en briques. Et ça va changer la donne. Et après, vous parlerez plus jamais d'ailleurs de la mère que vous avez eue et du père que vous avez eu. Ce sera même pas important. Ce sera même pas important. Ouais, ouais. Si on vous pose la question, vous direz, bah oui, bon, j'ai une mère. Mais vous pourrez les réconcilier. L'idée de la maison en briques aussi, c'est de réconcilier papa et maman à l'intérieur de soi. Sinon, on est tout le temps en souffrance de cette mère qu'on a eue, de ce père qu'on a eu. Enfin, j'ai envie de dire plutôt qu'on n'a pas eu.
Oui, ou qui de nous cette a enfance qu'on aurait voulu avoir et
absolument,
qu'on n'a pas eu.
Absolument, absolument.
C'est ça.
Et souvent, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, Gladys, parce que souvent, quand on est petit, et vous avez dû l'avoir, on a la conscience, vous savez, en maternelle, en primaire, à l'école, enfin, après au collège, de voir des enfants qui ont ces parents-là dont on dit, oh là là, il en a ou elle en a de la chance chez elle, on voit la maman à la sortie de l'école, ou le papa, ou les réunions de parents. Et on regarde ces familles-là et on se dit, mais moi, pourquoi je n'ai pas les mêmes parents?
C'est exactement ça. Ouais, j'ai des souvenirs comme ça. Ouais. Et puis, il y a aussi un
goûter,
truc que j'ai toujours senti à part.
Ouais, bah,
et après,
forcément.
Alors, adolescente, c'était génial, parce que justement, c'est là où socialement, où c'était bien. Parce que j'étais à part, j'avais déjà un prénom qui n'était pas commun.
Du coup, c'est allé avec le côté rebelle. Ben voilà.
Tout à fait.
Voilà.
Et l'autre fois, je vous ai entendu quand vous parliez comment, du caractère rebelle.
Oui.
Et je l'ai noté d'ailleurs, parce que ça m'a parlé forcément.
Ben oui, bien sûr.
Et j'ai dit, ben, je suis bloquée dans l'enfance et dans l'adolescence, mais effectivement, la femme, elle est où?
Oui, ouais, parce qu'être rebelle, tout d'un coup, ça vous permettait d'exister et d'être différente et d'accepter votre différence. Vous n'étiez plus cette petite fille qui se disait quand même, mes parents... Voilà, et qui presque avait honte des parents qu'elle avait en se disant, mais moi, je n'ai pas les parents comme les autres.
Oui, tout à fait, exactement.
Mais ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que même chez ces enfants-là qu'on en vit quand on est petit, si on les interrogeait, ces enfants vous diraient, ben, peut-être qu'ils ont le même sentiment vis-à-vis des parents qu'ils ont. Et pourtant, même si l'extérieur a l'air formidable. Donc voilà, ça, c'est très intime, cette histoire de comment on vit ses parents quand on est enfant.
Et vous voyez, dans mon projet, alors il y a un projet moi qui me tient à cœur, mais que professionnel que je ne pourrais pas faire parce que malheureusement émotionnellement c'est trop fort. Et ben moi, ça aurait été de travailler dans une pouponnière d'urgence. Je sais que c'est pas un hasard, mais parce que moi les bébés ça me parle. C'est dans leurs yeux, dans leurs gestes.
Et vous connaissez votre histoire de bébé à vous?
Alors mon histoire de bébé, un petit peu. Je suis née dans une maison de l'enfance. Mon grand-père, au départ, du côté de ma mère, voulait pas de moi. Hein. Après, dans la vie, il s'est excusé. Hein. Bien évidemment, j'ai été sa petite fille. Mais au départ, ça a été très compliqué. Mon père n'était pas présent, bien évidemment. Et ma mère a dit, je lui avais posé quelques questions, et elle a dit que quand je suis sortie, j'ai mis du temps avant de pleurer. Voilà, c'est le... Par contre, j'étais un gros bébé. Hein. Je faisais 4,2 kg. Elle n'en a eu qu'un, je suis fille unique, mais voilà. Mais j'ai mis un peu de temps à pleurer avant d'arriver. Et l'autre fois, j'ai écouté sur YouTube une vidéo de la personne qui a fait la méthode Tipeee. Mmh. Et quand vous me parlez de naissance, j'étais en train de me limer les ongles et tout. Hein. Donc vous voyez, j'écoutais. Et à un moment, il parle de l'agoraphobie ou la claustrophobie. Je crois que c'est de la claustrophobie. Et il disait que des fois, quand le bébé arrivait, des fois, on pouvait perdre conscience sans que personne s'en aperçoive inconsciemment et que, voilà. Et quand il a parlé de ça, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi, ça, j'ai pleuré. J'ai lâché
un écho. Oui, il y a eu un écho.
Il y a eu un écho, exactement.
Absolument.
Alors, et je me suis mise à pleurer, mais un pleur en même temps, vous savez, qui me libérait de quelque chose en me disant, ça y est, j'ai compris. Voilà, mon ressenti.
Ouais. Ouais. Et très certainement, il y aurait peut-être pour vous à explorer quelque chose autour de ça, qui vous ferait comprendre aussi, parce que vous voyez là, la façon dont vous en parlez, on rejoint la façon dont vous décrivez aux parents, c'est la pauvre petite Gladys. Mais ayez alors, allez jusqu'au bout de ça. Aller jusqu'au fait d'avoir de la tristesse, de la pitié, de l'empathie pour ce bébé. Parce que quand vous allez le contacter, ça, ben vous allez vous accepter, vous allez vous aimer, vous allez vous retrouver. Mmh. Alors que là, vous me le décrivez à distance, de façon... Vous voyez, enfin à distance, comment dire. Oui, vous me dites, ben, j'ai eu de l'émotion, etc. Mais je ne comprends pas bien. Et l'air de dire, ah mais ça a dû être horrible. Ma naissance ou quand je suis venue au monde.
Alors non, c'est pas ce que je me suis dit parce que là c'était pas intellectuel, c'était vraiment quand j'ai pleuré, c'est venu tout seul.
Non, mais qu'est-ce que disaient ces pleurs?
Ben ça, enfin
Oui, ça faisait écho, ça faisait vraiment quelque chose en disant vraiment, enfin, ça y est, j'ai compris. Voilà.
D'accord.
Bah, j'ai trouvé.
D'accord. Et ça vous a apaisé, du coup ?
Sur le coup, ça m'a apaisé. N'empêche que mes angoisses, hein, c'est mes copines. Hein, elles m'aiment, elles. Hein. S'il y a bien des gens qui m'aiment, c'est.
Ah, ben
bah
oui, mais elles ont
pas. Alors, j'aimerais bien qu'elles me lâchent un petit peu le. Ou qu'elles se tiennent un peu plus à distance, parce que c'est handicapant, hein, je vous assure.
Eh bien, dites-leur, ben, vous en parlez très très bien, vous allez leur dire merci, merci du soutien, merci de m'avoir mis sur le chemin, merci de m'avoir tenue chaud et d'être vigilante comme ça. Mais vous allez voir, maintenant, je suis une grande fille, mais merci, voilà, au revoir et merci.
Oui, oui, parce que vous voyez, du coup, on se sent un peu, encore, je vais revenir dessus, mais encore un peu à part dans la vie. Parce que les gens qui n'ont pas ça, ils ne vous comprennent pas. Hein. Si vous faites une crise d'angoisse, ils vous prennent pour une dingue, hein, je vous assure. Hein. Parce que ça ne se voit pas. Et pourtant, Dieu sait que c'est violent et Dieu sait que c'est... Je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Hein.
Ouais, absolument, vous avez complètement raison, Gladys. Et souvent que les personnes qui vous voient la voir ou qui le savent se disent « Mais comment elle devrait pouvoir contrôler ça ou arrêter ça ?» Et c'est impossible.
Oui, par contre, tous ceux qui en ont fait au moins une... Ils comprennent. Et d'ailleurs, je suis la reine de l'angoisse parce que quand j'ai des copines qui font des angoisses, elles m'appellent. Je suis la queen de l'angoisse. Tu sais pas quoi, j'ai trop pensé à toi, j'ai fait une crise d'angoisse.
Mais donc, ça crée
donc comment
des liens.
Tu fais ?
Oui, donc ça crée des liens.
Oui, mais surtout, elles me disent, mais comment tu fais ? Parce que moi, c'est tous les jours que j'en ai. Hein. C'est pas une fois, ça s'est transformé en anxiété généralisée. Mais après, je veux pas rester dans ce cadre-là. Je veux pas... Pour l'instant, c'est qu'un passage. Ma psy, elle me dit, et puis j'ai du mal avec la patience, moi. Parce que je me dis, ça fait un an, quand même, plus d'un an, depuis le mois de mars dernier, que j'ai arrêté mon activité professionnelle.
Mars dernier.
Et il paraît que oui. C'est de la patience.
Oui, mais qu'est-ce qui est de la patience ?
Enfin, c'est de la patience. Oui. Qu'il faut avoir de la patience.
Mais pourquoi ?
Eh bien, pour passer, justement, pour aller.
Ah, je vous entends plus, je vous ai perdu.
Ah, vous m'entendez ?
Oui, ça y est.
Pour aller mieux. On m'a dit, voilà, vous avez mis du temps à descendre l'escalier, il faut du temps pour le remonter.
Absolument, oui, d'accord.
Et ça, j'ai du mal à accepter.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous imaginez, vous ?
Eh ben moi, si j'avais là une petite fée avec une baguette magique, mais moi, je voudrais me sentir ancrée. En fait, le symptôme d'une crise d'angoisse ou l'avant, c'est je suis là, mais je ne suis pas là.
Mais attention, parce que dans les crises d'angoisse ou les crises de panique, quand on devient un expert du sujet, enfin que ça nous arrive beaucoup, on sait tout repérer, donc il y a une extrême vigilance. C'est comme
Exactement.
Si vous deveniez une grande, grande connaisseuse.
Oui,
mais vous savez ce que c'est que l'expertise ? On adore tout ça, l'expertise, d'être expert de quelque chose, ça nous renforce. Donc,
moi, j'aime pas ça du tout, justement, parce
mais
que la moindre sensation, ça y est, l'analyse.
Bah oui, c'est pour ça que je dis, vous êtes devenue une experte et l'expertise est comme quelque chose qui rassure, même si vous n'aimez pas ça, vous êtes certaine de... Donc, vous ne pouvez plus vous autoriser d'expériences un peu neuves, un peu nouvelles, un peu différentes, parce que vous allez les attribuer tout de suite à l'expertise, dossier, expertise, crise d'angoisse.
Ouais.
Donc, il faudrait lâcher un peu d'expertise sur le sujet, justement. Ne plus être identifiée comme celle qui connaît tellement bien le système qu'elle a déjà tout repéré, elle peut tout analyser, il m'arrive ça. Donc forcément, je sais, parce que la dernière fois, tu comprends, il m'arrivait ça comme ci, comme ça, comme ça. Alors forcément, là, ça va être comme ça, comme ça. Et en fait, comme les crises d'angoisse, elles font leur lit de cette histoire d'hyper-contrôle, bah en fait, vous êtes dans une façon de contrôler qui ne contrôle rien. C'est ça, hein, la crise d'angoisse. Je surcontrôle quelque chose que je suis incapable de contrôler. Donc, c'est hyper angoissant comme système.
C'est ça. Et c'est fatigant, c'est usant.
Ouais.
Alors, il y a des moments où ça va un peu mieux, donc je me dis, ça y est, hop. Mmh. Et puis, quand ça revient, j'ai l'impression que j'ai repris, vous savez, comme une vague, en fait.
Ouais.
C'est pareil, comme une surfeuse. Hein, et moi, je n'arrive pas à épouser la vague. Donc, à chaque fois, je me retrouve à plat ventre, au bout de la plage.
Mmh. Oui,
Mais c'est vrai que c'est le chat qui se mord la queue après. Alors, bien évidemment, j'espère que, je pense que quand tout sera libéré, vous savez, je vais avoir de la légèreté. Il y a des fois, je me dis, mais fous-toi la paix. Mon mental, lui, comprend tout, mais émotionnellement, c'est une autre paire de manches.
Mais Peut-être qu'émotionnellement, vous pourriez commencer à faire des petites expériences un peu différentes pour vous dire que vous ne les connaissez pas.
Ouais, ça c'est compliqué.
Et pour repartir dans une forme d'innocence, de spontanéité.
Ouais, je comprends.
Vous voyez ce que je veux dire ? Et lâcher cette expertise en fait de tous les phénomènes, parce que et puis surtout de lâcher du contrôle, de vous laisser faire. C'est presque le mot confiance que j'ai envie de vous dire, plus que patience, mais...
Ouais, c'est vrai.
De travailler en confiance, en tout cas, ça peut vraiment faire la différence pour vous.
Ouais, mais j'y travaille, mais vous voyez, oui, je suis encore... Oui,
forcément.
Vous qui
ne
me connaissez pas,
ouais.
Mais je suis encore dans le contrôle, alors que je vous assure que j'en ai lâché déjà un gros bout.
Mais sûrement, contrôle, sûrement. Mais bon, tout ça est toujours un peu un long chemin, voilà.
C'est exactement ça, je suis entièrement d'accord avec vous.
Ouais. Mais voilà, faut jamais perdre la foi et le courage, parce qu'à chaque fois c'est des découvertes en découvertes.
Non mais heureusement que j'ai ce côté solaire, hein.
Ouais.
Heureusement.
Ouais, ça s'entend dans votre voix d'ailleurs.
Bah merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute.
Merci Gladys et puis
bonne nuit à vous.
Bah joli chemin à vous. Oui, merci.
Merci Manu
également. Au revoir.
Au revoir.
Et merci, ce fut court mais ce fut bon, j'ai envie de vous dire ça, comme d'habitude, et pour un lundi, merci à Véronique et merci à Gladys. Bien entendu, on se retrouve demain, et cette fois-ci c'est promis, à 22h30, pour passer 2h30 ensemble. Pour s'endormir avec ce joli marchand de sable étoilé, Paulo Coelho. Avant d'éveiller l'amour chez les autres, réveillons l'amour qui dort en nous. Ainsi seulement nous pourrons attirer l'affection, l'enthousiasme et le respect. C'est bien évidemment ce que je vous souhaite du fond du cœur. En attendant, je vais vous laisser avec Pierre Bellemare pour ceux qui n'ont pas sommeil. Écoutez les dossiers extraordinaires. Et une très belle nuit et des beaux rêves à vous. À demain.